Lucien Pagès, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir dans vos sublimes locaux parisiens, dans votre grande agence de communication. Lucien Pagès, je voudrais commencer par une citation d'un penseur, pédagogue, Stilkill. Et voilà ce qu'il souligne. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de bien, mais je sais que je suis quelqu'un de vrai. C'est à prendre ou à laisser. Et vous, Lucien Pagès, qui êtes-vous ?
Par rapport à ce que vous dites ou en général ?
En général.
J'essaye d'être quelqu'un de bien, déjà. J'essaye de me comporter bien. J'ai toujours l'impression un peu que si on se comporte mal, mais ça c'est peut-être mon éducation catholique, que je vais avoir que je vais en pâtir, ou que j'aurai des... Et puis après, je pense que j'essaye aussi de progresser dans la vie, d'aller vers les autres, de les comprendre, de ne pas les juger. Ça, c'est un truc très important, c'est un truc qui est venu récemment. C'est tout un truc sur le jugement, en fait, qui m'est apparu. Parce que je vis dans un monde où on juge énormément les gens, les autres, sur leur apparence, sur leur intelligence, sur leur goût, sur leur d'où ils viennent. Et en fait, j'essaye de me détacher le plus de ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'amuser de la bêtise de quelqu'un, mais en tout cas, j'essaye d'y mettre le plus d'empathie possible et de juger. J'essaye de m'éloigner du jugement, en fait, mais du vrai jugement, de celui qui veut dire que quelqu'un n'est pas assez bien pour vous, que quelqu'un n'est pas assez. J'essaye de regarder l'autre sans jugement. Mais ça, c'est un travail.
Juger, c'est. Critiquer ou constater ?
Ah ben ça va un peu des deux, mais j'essaye de. Justement, dans ce dont j'essaye de m'éloigner, c'est la critique. Constater, c'est pas très grave.
Oui, c'est ça.
Ça fait partie de la vie.
Ça fait partie de la vie. Lucien Pagès, vous êtes quelqu'un de bien, comme vous venez de vous définir vous-même. Très rapidement, mais vraiment en une minute, les grandes lignes de votre parcours professionnel.
Comme je dis souvent, j'ai grandi dans un village dans les Cévennes, mes parents avaient un hôtel-restaurant. Et je voulais faire de la mode, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait rien qui me prédestinait à cet univers, il n'y a rien dans ma famille de lié à cet univers. Et je voulais venir vivre à Paris, donc dès que j'ai eu 18 ans, j'avais déjà demandé à mes parents de pouvoir faire une école de mode et à Paris, et ce que j'avais établi comme étant la meilleure. Et j'ai été accepté dans cette école, mes parents, j'ai eu la chance qu'ils puissent m'offrir ces études. Et je suis venu à Paris à 18 ans, j'ai fait mes études, j'ai fait des stages avec Yves Saint Laurent lui-même, ou chez Dior avec Gianfranco Ferré à l'époque, donc c'est comme... On dirait que je parle d'avant-guerre maintenant, parce que c'était... Récemment, j'ai réalisé que quand je disais aux jeunes ou que je travaillais avec Yves Saint Laurent, c'est comme si je leur disais que j'avais travaillé avec Coco Chanel. C'était ce que ça appartenait à... Alors que pour moi, c'est très récent. Mais bon, le temps passe vite. Et après, j'ai travaillé pour un directeur artistique pendant 5 ans et demi. Puis j'ai monté mon bureau de presse, sans avoir aucune expérience dans ce domaine-là, en 2006, par plein d'opportunités et de saisir des opportunités. En fait, je voulais travailler dans la mode, mais je voulais réussir dans la mode aussi. J'avais un peu quand même une ambition. Et quand je dis une ambition, c'est une ambition de développement personnel, d'être fier du parcours accompli. Je voulais qu'à un moment, construire quelque chose. Donc je suis rentré par la création dans la mode, et puis j'ai vu que peut-être je n'irais pas là où je voulais aller, et j'ai ouvert tout le champ des possibles pour pouvoir laisser rentrer des opportunités, et c'est ce que j'ai fait.
On va reparler de tout cela, des grands mots que vous venez d'utiliser, la mode et ça. Vous êtes vous avez une très très grande agence de presse de la mode, Lucien Pagès Communication. Quelle définition donnez-vous de l'attaché de presse?
Pour moi, c'est vraiment un lien. J'ai toujours dit, c'est un lien entre des marques, des créateurs, des créatifs et des médias sous toutes les formes que ce soit. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, c'était des médias classiques. Maintenant, c'est toutes sortes de médias. C'est le web, le social media, voilà, tout ce qui participe à faire connaître une marque, à lui donner de l'ampleur. Et moi, je suis juste le lien de ça.
Et alors, comment rebondissez-vous à la définition que donne Bernard Pivot, qui souligne que le bon attaché de presse, c'est celui qui sait se réjouir d'une acceptation et de ne pas se froisser d'un refus.
C'est totalement vrai.
Est-ce que ça définit vraiment
la fonction? Ça définit votre plaisir du travail, mais ça ne définit pas le travail.
Oui, c'est ça. Il y a une nuance.
Oui, c'est-à-dire ça, c'est une partie, oui. Effectivement, il ne faut jamais prendre les choses personnellement, ça c'est clair. D'abord, ce n'est pas vous, c'est vos clients. Donc, vous n'êtes pas là pour vous promotionner vous-même. Donc, vous ne pouvez pas non plus prendre ça totalement personnellement. Il y a toujours la chance d'avoir une distance. Si quelqu'un n'aime pas une collection, un designer, quelque chose, un produit ou une action d'une marque, un défilé, c'est pas moi qui n'aime pas. Moi, je suis plutôt du côté de la marque et du designer pour qu'eux arrivent à se détacher de la critique.
D'accord.
La critique, elle est rarement versée contre moi.
D'accord.
Comme je l'ai dit, je suis un lien. Donc je ne suis pas le principal touché.
Tout à fait, oui. Mais alors, dans votre travail, est-ce que vous allez dénicher les talents pour les révéler au grand public, ou vous partez déjà des talents qui ont été révélés et puis vous les mettez en
lumière? Nous, on est plutôt connus pour dénicher les talents. C'est plutôt notre truc.
Oui.
Donc, maintenant, effectivement, vu qu'on est beaucoup plus établi, on travaille avec des gens qui sont déjà établis aussi parce que mais je continue de vouloir dénicher des talents, donc c'est une chose qu'on continue et qu'on fait. Dernièrement, je trouvais des gens sur Instagram qu'on a représenté, à qui on donne un éclairage, mais je peux pas non plus, j'ai une entreprise, je peux pas vivre non plus que de nouveaux talents, donc c'est une espèce de savant mélange. Mais le DNA de l'agence, c'est vraiment la créativité et le soutien aux marques émergentes et indépendantes et jeunes créateurs.
Mais quels sont les critères pour dénicher un talent? Enfin, quels sont vos critères?
Mon critère, la bottom line, c'est vraiment si je peux appeler quelqu'un et dire que c'est génial. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait, si j'ai un doute là-dessus, je ne le fais pas. Après, effectivement, sur les nouvelles marques, c'est vraiment la créativité et être unique. Je pense que c'est un truc que je dis souvent, il y a trop de marques. Et personne n'a besoin de plus de vêtements, personne n'a besoin de plus de marques. C'est absolument un fait établi, on n'a besoin de rien. Donc si une nouvelle marque arrive, un nouveau créateur arrive, il faut qu'il soit absolument particulier, singulier, parce que c'est là où il va trouver sa place et sa raison d'être. Mais donc pour moi, c'est vraiment la créativité, être unique. Être unique, c'est pas forcément dessiner des choses qu'on n'a jamais vues, c'est mettre en place des objets, des vêtements qui racontent votre histoire, de votre culture, de votre savoir-faire, vont être uniques et ne pourraient être racontés que par vous.
Et c'est hyper intéressant ce que vous dites, Lucien Paget, parce que est-ce qu'une mannequin, c'est une histoire?
Oui, bien sûr, elle a sa propre histoire.
Oui, et son histoire se révèle.
C'est un être humain, donc forcément, c'est une histoire.
Mais ça se révèle à travers sa création, ou la création de la maison qui va lui.
Évidemment, les filles, il y a une fille, je dis n'importe quoi, mais elle peut avoir une énorme énergie, elle peut être totalement moody, elle peut être. Enfin, je veux dire, elle arrive avec son bagage, comme tout le monde. Mm-hmm. Et elle va dégager quelque chose sur un podium ou dans une photo, parce qu'elle est elle.
Parce qu'elle est elle. Et tout le monde est unique, en fait. C'est ça qui est le grand paradoxe. À la fois que tout le monde est unique, tout le monde est singulier, et vous tentez de révéler ce qu'ils le sont peut-être encore plus.
Tout le monde est unique, oui. Après, il y a quand même une espèce de normalisation. Maintenant, les gens aiment bien se ressembler.
C'est le très grand paradoxe, je trouve.
Donc, moi, j'étais plutôt d'une époque, je ne suis pas si vieux, mais où on avait envie d'être unique.
Je confirme.
Et maintenant, j'ai l'impression que les gens ont plutôt envie d'aller par tribus, de faire un peu tous pareil, la même chose, de se reconnaître entre eux, des gangs, des tribus. C'était pas comme ça avant. Avant, on était c'était un peu plus individualiste,
ouais.
Mais en tout cas, il y avait aussi... une recherche d'être spécial.
D'être spécial, d'accord.
Et qui fait l'être humain.
Oui, c'est ça. C'est ce qui fait la richesse, finalement, de l'être humain.
Voilà.
Alors, Lucien Pagès, une autre question, vous avez cette grande agence de Lucien Pagès Communication. Quelle définition donnez-vous même de la communication? Que veut dire communiquer?
Ben, c'est envoyer un message.
Oui.
Donc, tout est communication. Quand on voit que la presse va mal, en tout cas la presse dans mon domaine, a des soucis de viabilité, dépend beaucoup de la publicité, le business model est à redéfinir, mais ben, nous aussi, en tant qu'on est attaché de presse, agence de communication, et c'est vrai que on peut se demander où on va aller si du coup notre interlocuteur principal ne va pas très bien. Et en fait, quand j'analyse tout ça, je m'aperçois que le monde entier n'est que communication, c'est-à-dire que tous les domaines ne font que over-communiquer, que ce soit la politique, la musique, le cinéma, même dans le social, le sociétal, les musées, tout le monde communique. Donc,
oui, mais alors...
Donc on s'adresse, on envoie des messages aux gens pour dans un but précis. Nous, dans la mode, c'est vendre des choses.
C'est quand même le...
Ouais. Des musées, c'est vendre des tickets aussi et faire venir des gens. Les politiques, c'est se faire élire ou faire passer des lois.
Ah, ouais, c'est ça.
Tout le monde a son agenda par rapport à la communication, mais tout le monde utilise la communication. Et d'ailleurs, maintenant, les gens sont très aguerris. Et on voit quand même des gens sont assez critiques sur comment les gens communiquent. Souvent, on entend maintenant, oui, la communication du gouvernement est très mauvaise, ou je ne sais pas, peu importe. Enfin, je veux dire, les gens ont même une opinion sur la communication, c'est un objet en lui-même.
Oui, mais est-ce qu'à travers la communication, on peut tout dire? Peter Drucker dit que la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit.
Oui, ou de cacher ce qu'on ne veut pas dire, surtout.
Ou de cacher ce qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire?
Moi, nous, on travaille sur beaucoup de choses, des fois, où il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi telle action est faite? Pourquoi? Donc on masque un peu la vérité pour faire passer des messages, ou on rend les choses plus belles qu'elles ne sont. Ou la communication, c'est un outil. Moi, je ne suis pas sûr que c'est plus pour dire des choses pour montrer des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, peut-être. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est plus dans la réaction. Donc du coup, on est plus en train Oui, on peut faire passer des messages subliminaux aussi.
Il y a une subtilité, en effet, dans la communication. Lucien, vous êtes cette grande agence de presse de la mode. Tout simple, c'est une question qu'on va souvent poser, mais au niveau philosophique, moi je vous la pose au niveau philosophique. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse.
Ouais.
La mode, c'est l'amour de quoi?
C'est l'amour de la beauté.
Alors, comment définissez-vous la beauté? Mais tout d'abord, comment définissez-vous la mode?
Kant qui disait oui. La beauté, c'est quelque chose qui plaît universellement et sans
concept. Oui, c'est ça.
C'est un truc que j'ai appris en philosophie. Et je trouve qu'on y revient toujours, en fait.
Oui.
Parce que... ce qui est beau, un coucher de soleil vous émeut, je dis n'importe quoi, le truc le plus basique, mais une très belle robe peut vous émouvoir aussi, ou une femme peut devenir hyper sûre d'elle-même par un choix de vêtements, un homme à l'aise dans un costume qui lui permet d'aller de naviguer dans plein de choses, dans plein de l'endroit, comme sexy dans un jean. Enfin, je veux dire, le vêtement, il n'est pas un vêtement. On ne s'habille pas pour s'habiller, on s'habille pour aussi communiquer.
Oui, on s'habille pour communiquer. Mais alors, la mode, c'est vraiment... On a beaucoup de définitions de la mode. Et quand on pense à la mode... Je lis un article dans le métro, juste avant de venir, sur la mode. Et en fait, c'était dans un des journaux. Et je me dis, mais la mode, quand on parle de la mode, on a une idée assez... un peu négative, un monde un peu à part, un monde de luxe, un monde de superflu, un monde de paraître et d'être. La question est la suivante, Lucien, quelle est la place de l'être et du paraître dans la mode?
Moi, je dirais que c'est pas très grave, en fait. On peut paraître et c'est pas grave, on peut être superflu et c'est pas grave. Je trouve qu'il y a déjà du jugement dans tout ça. Oui, on peut se vouloir se faire plaisir, s'acheter un objet de luxe, ou être beau, ou aller chez le coiffeur, ou faire des UV. C'est pas grave. Si ça vous fait plaisir et que ça vous rend heureux, vous êtes peut-être un peu moins aigri avec les autres. Donc, j'espère que les gens vont être sont le plus heureux possible.
Oui, il faut espérer.
Mais je pense pas que la mode soit superflue, parce que déjà elle fait travailler énormément de gens. Elle donne sûrement, si vous regardez la liste des gens les plus riches en France, ce ne sont que des gens issus de la mode et du luxe, que ce soit les Pinault, les Arnault, les Bettencourt, la famille Wertheimer, la famille Hermès. Et je pense que les 5 plus grosses fortunes françaises sont liées au luxe et à la cosmétique. Donc c'est pas du tout superflu, ça, c'est des milliers de jobs. Donc on ne peut pas dire que donner autant de boulot à des gens, c'est superflu. Ramener autant de devises ou d'industries en France, c'est superflu. Donc déjà, il y a cet aspect économique pour moi qui est absolument pas essentiel, parce que c'est aussi améliorer la vie de plein de gens, et la fierté de la France, et plein de choses qui sont quand même très très importantes. Et après, s'habiller, c'est l'essence de ce qu'on est, sinon on serait nu. Enfin, je veux dire, à un moment, l'être humain a décidé de s'habiller. Et c'est arrivé il y a longtemps, quand on est préhistoire. Donc, il n'y a pas de... Ça s'est juste amélioré, comme tout s'est amélioré dans notre vie, ou empiré, ou comme on veut. Mais en tout cas, on a accédé à la sophistication, à l'extrême sophistication, aussi par le vêtement.
Alors oui, mais alors je vais pousser la question un peu plus loin. Ouais. S'habiller, d'une certaine manière, et je pense à la mode, d'une certaine manière, n'est-ce pas se dénaturer ?
Non, c'est...
Je suis exprès de poser cette question, parce que c'est...
C'est utiliser des artifices aussi, pour peut-être faire, pour justement passer pas quelqu'un qu'on n'est pas, mais pour mettre en valeur ce qu'on est. Alors, au lieu d'être le mieux possible de ce qu'on est, si quelqu'un est très bohémien, pourquoi il ne serait pas bohémien chic ? Voilà, je ne sais pas.
Oui, pourquoi pas ?
Vous voyez ce que je veux dire ? Si quelqu'un a un esprit bohème, il peut être bohème, mais il peut être super stylé bohème. Enfin, je veux dire, ça paraît débile ce que je dis, mais c'est pas, pour moi, c'est pas se trahir, c'est s'améliorer.
C'est s'améliorer.
C'est pourquoi ne pas faire mieux quand ça existe. Après, quand j'ai dit, c'est un mauvais exemple, peut-être le style bohème, parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment vraiment vivre pieds nus, être très cool, et que pour eux, s'améliorer, c'est enlever tous les artifices. Donc oui. Ça, c'est aussi possible, mais ça peut être quelqu'un qui fait ça et qui peut être extrêmement stylé.
Oui, c'est ça.
Quand il enlève tous ses artifices. Mais enlever ses artifices, c'est aussi une prise de décision. C'est aussi. C'est pas. Le naturel dans l'être humain, il existe sous quelle forme ? On ne sait plus. Parce que des fois, des choix qui paraissent très naturels sont en fait très calculés. Donc, où sont des prises de décision ?
Est-ce que finalement le naturel existe encore ? Parce que tu vois, tu as des lunettes, j'en ai...
Ah ben ça c'est parce qu'on doit y voir, c'est pas pareil.
Oui, mais ça pourrait faire partie de l'artifice, parce qu'il y en a qui mettent les lentilles, et voilà, et tout en...
C'est une artifice aussi.
C'est une artifice aussi.
Donc, je... Oui, le naturel existe dans les relations, dans les... Mais à partir du moment où on s'habille, on n'est plus naturel, puisqu'on n'est plus nu.
C'est ça.
Donc on prend toute une sorte, et on le voit chez les enfants aussi.
Oui.
Les enfants prennent des décisions de vêtements.
Tout à fait, oui.
Et puis à un moment ils s'affirment, les parents les habillent comme ils veulent, un peu chic ou machin ou pas du tout. Et puis d'un coup la fille, c'est très drôle, j'ai plein d'enfants d'amis qui sont très chics et les habillent très chic. Puis d'un coup la petite fille elle veut être absolument habillée en princesse rose fluo. Et ils sont horrifiés, mais bon, c'est son choix. Et peut-être qu'elle ne restera pas rose fluo toute sa vie.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous venez d'utiliser le verbe d'affirmer. Moi, j'oserais utiliser même le verbe d'identifier. Mmh. On s'identifie. On est dans une interview anthropologique, la connaissance de soi. Lucien Pagès, est-ce qu'à travers la mode, vous-même, vous apprenez tous les jours à vous connaître encore plus. Mmh. Est-ce que la mode est un miroir ? Est-ce que vous devenez toujours plus qui vous êtes devenir pour agir ?
On n'est pas, on devient.
Oui.
Oui, tous les jours, mais c'est pas que la mode, c'est la vie. C'est aussi gérer une entreprise, gérer du staff.
On devient qui ?
On devient ce qu'on veut devenir. Je pense qu'on a le pouvoir, l'être humain a un pouvoir colossal de se transformer, d'utiliser son intelligence pour faire le bien ou le mal. Enfin, c'est à nous de choisir. On a été capable d'aller sur la Lune. On est capable d'aller sur la Lune, mais on ne va pas être capable de sauver la planète. Enfin, c'est absurde. Est-ce qu'on ne peut pas inverser l'intelligence, genre, au lieu d'aller sur la Lune, peut-être on va utiliser la même intelligence pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète. Ben non, on va aller encore sur la Lune et on va essayer d'amener les gens visiter l'espace. Est-ce que vraiment on a besoin de visiter l'espace? Donc on est dans une quête effrénée on devient ce qu'on veut et l'humanité deviendra ce qu'elle veut.
Vous savez, Lucien Pagès, vous êtes très intelligent. Permettez-moi de vous le dire, vous savez pourquoi ? Parce que vous venez d'utiliser le mot intelligence, et en latin, intelligare veut dire lier les choses entre elles. Or, tout à l'heure, vous avez donné la définition de l'attaché de presse, c'est celui qui fait des liens, qui lie, etc. Donc vous êtes intelligent.
J'espère. En tout cas, j'essaye de me servir de mon cerveau.
Oui.
Et je pense que, par exemple, si je dois revenir sur mon expérience, j'ai essayé, quand j'ai ouvert ce bureau de presse, de me servir de mon cerveau. Quand je voulais expliquer aux gens pourquoi une collection était bien, un designer était intéressant, je l'expliquais d'une manière très simple, mais en me servant de mon cerveau, en disant c'est bien parce que si, parce que ça, parce que moi j'essaye toujours, même pour les journalistes, de leur trouver des angles ou de dire tu sais, ça, j'ai vu ça, il y a 2-3 personnes qui ont fait ça. Bien sûr, il y a toujours des clients à moi là-dedans parce que j'ai besoin de vendre mon truc. Mais ce que je veux dire, je comprends aussi de leur côté qu'il faut qu'ils aient des angles, qu'ils décollent du sujet aussi pour pouvoir peut-être parler de mouvements. Et si moi j'observe des mouvements parce que j'ai beaucoup d'informations, parce que je travaille avec beaucoup de marques, je travaille avec beaucoup de groupes, donc du coup je vois des mouvements aussi. Je vois comment mon staff réagit, je vois les gens, parlent à beaucoup de gens, mon travail c'est parler à des gens, donc j'accumule énormément d'informations.
C'est ça.
Et qui me permettent des fois, quand j'ai le temps, si je décolle du sujet, de voir des choses, et du coup c'est des choses dont j'aime discuter avec les journalistes aussi.
Oui.
Donc j'essaye à chaque jour et à chaque chose de me servir de mon intelligence. Je vois ça comme des espèces d'exercices. Si des fois il va y avoir une collection un peu difficile ou quelque chose qui pourrait être mal interprété, je l'anticipe et j'essaye de d'y répondre avant que ça soit mis sur la place publique.
Vous êtes intuitif ?
Oui.
Vous sentez les choses.
C'est difficile de dire ça parce que des fois il y a des choses qu'on ne sent pas du tout, donc alors après on est embêté. Il y a des choses qu'on ne voit pas venir.
Oui.
Mais j'essaye, je pense que les gens qui font des trucs mélange l'intuition et l'intellect et la réflexion. L'intuition, elle peut être mauvais guide, ça peut être un mauvais guide aussi.
Oui, c'est ça.
Parce que si on fait pas confiance en l'intuition, on peut. Enfin, voilà, l'idéal, c'est évidemment, effectivement, cette intuition sur les choses, sur les mouvements, sur des gens, et à la fois d'y rajouter un peu de réflexion quand même.
C'est ça. Lucien Pagès, vous êtes dans le luxe, vous travaillez dans la mode, dans le luxe. Et je dirais dans le luxe, je voudrais que vous m'aidiez à réfléchir sur le concept de l'élégance. Mmh. Comment définissez-vous l'élégance ?
C'est l'élégance, elle peut être d'abord elle est culturelle, donc elle peut être différente selon les cultures. Elle évolue avec le temps, donc ce qu'on trouvait élégant avant est peut-être pas forcément élégant aujourd'hui, et à la fois j'ai l'impression que quand on se réfère à l'élégance, on se réfère au passé. Parce que on rigolait tout à l'heure de la duchesse de Windsor, je sais pas, non, mais on va aller chercher des espèces d'icônes comme ça du passé qui symbolisent l'élégance, mais c'est une élégance qui n'est pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le monde a changé, donc faut définir qu'est-ce que c'est l'élégance aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, l'élégance, elle ne se situe pas dans les vêtements, elle se situe dans l'attitude. Pour moi, c'est vraiment, plus j'y pense, et plus je pense que les gens que je trouve élégants, c'est des gens qui ont une espèce de noblesse, de, de l'âme, qui se comportent bien, qui font attention aux autres. Je sais pas, quand vous êtes en dîner, quelqu'un vous pose des questions, s'intéresse à vous. Alors des fois ça peut être, si c'est bien fait, si c'est élégant, justement, c'est aussi valorisant. Il y a des gens qui ne parlent que d'eux, ça c'est pas élégant du tout. Enfin, c'est plus, moi je mettrais l'élégance plus dans les rapports humains que dans le vêtement, à l'heure actuelle.
D'accord.
Parce que je trouve que maintenant on peut être très élégant sous la forme la plus basique. Tout dont on comprend l'élégance, c'est pour être genre, je copie le style de Audrey Hepburn. Mais on peut trouver un trench chez Zara sublime et un jean chez Levi's et avec une paire de ballerines, et on peut être ce qu'on appelle élégant ou élégante dans le style qui a été défini comme élégant.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça, oui.
Après, votre façon de bouger, tout ça, ça participe à l'élégance aussi. Donc c'est pas que le vêtement. Mais moi, je trouve que l'élégance du cœur, l'élégance de l'âme, c'est ce qui différencie les gens.
J'aime beaucoup votre définition. Le grand pionnier du dandysme britannique, George Brummel, souligne que la véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer.
Oui.
Et cependant, vous vous êtes attiré par les profils singuliers que vous dénichez et qui finalement vous les remarquez.
Oui, mais moi j'essaie d'être le moins remarquable possible, je suis très normal. Donc je suis attiré par les gens extravagants, peut-être plus parce que je me trouve normal, je sais pas.
Mais c'est intéressant.
J'ai toujours été attiré par les gens qui sortaient de l'ordinaire parce qu'il faut du courage, ils sortent de l'ordinaire.
Ils sortent de l'ordinaire.
C'est joli, je trouve, de sortir de l'ordinaire. Et quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui rentre dans un restaurant qui est différent, quelqu'un qui, je sais pas, ça peut être même des stagiaires ici. D'un coup, il y a des stagiaires, ben ils sortent de l'ordinaire. Je sais pas comment dire. C'est la puissance de l'être humain, sa singularité. Oui, c'est très ça. Intéressant. Même des gens qui, des fois, sont un peu directs. Ça surprend, c'est intéressant.
Oui, vous
après, moi, je ne suis pas un obsédé de l'élégance non plus. Comme j'ai dit, je ne veux pas juger. Donc, je ne juge pas. Ah, il est très présent, ce n'est pas élégant. Évidemment que quelqu'un de discret est beaucoup plus élégant, mais quelqu'un de discret peut devenir effacé.
Oui.
Donc, si c'est ça l'élégance, ce n'est peut-être pas non plus très intéressant. Moi,
c'est vrai.
Donc, moi, j'aime bien que les gens, en fait, comprennent. Qu'est-ce qui se passe dans les. Enfin, voilà, peut-être on revient à l'intuition, à la sensibilité. On comprend dans une discussion, dans un espace, dans un cocktail, ou dans un rendez-vous de travail, ou dans le métro, ou dans un lieu de vie, on comprend qu'est-ce qui se passe, et du coup, on trouve sa place dans qu'est-ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est élégant. C'est-à-dire, c'est pas rester à sa place, parce que c'est violent, rester à sa place quand on vous demande ça. C'est pas ça, c'est trouver sa place dans chaque univers, comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer.
Oui.
Et du coup, voir, c'est-à-dire, moi, il y a des fois où je suis à des endroits où je dois briller quelque part, je dois dire des trucs drôles ou intelligents. Bon, ben, j'ai compris que c'était mon job à ce moment-là. Il y a des endroits où il y a des gens très brillants, où moi je dois être là et plus leur servir la soupe. Mais c'est pas, et j'essaye tout le temps de comprendre quelle est ma place à chaque moment.
En fait. Vous adaptez.
Ouais, mais en étant moi-même.
Mais voilà, c'est ça. Ce
oui,
que
parce qu'il y a plein de gens, bon, je vais revenir un petit peu sur un truc que j'ai dit, mais on me dit, tu vois, il parle que de lui, il s'intéresse, il ne pose jamais de questions. Je dis, moi, tant mieux, j'ai aucune envie de raconter ma vie, donc je suis ravi qu'on ne me pose pas des questions. En fait, souvent, ça m'arrive, je suis ravi. Mais d'un coup, des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Et ça me fait plaisir parce que c'est des questions qu'on ne m'avait jamais posées. Ou là, dernièrement, j'ai dîné avec un ami d'enfance, mais vraiment vieil ami d'enfance. On a fait tout le parcours scolaire ensemble dans les Cévennes et tout ça. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il m'a posé des questions très intéressantes sur mon travail qu'on me pose rarement. Ça m'a fait plaisir parce que c'était différent.
C'était différent, oui.
Et puis, Et puis du coup, je pouvais raconter moi aussi avec beaucoup d'honnêteté certaines choses.
Oui, c'est ça. Lucien Pagès, l'interview va malheureusement bientôt s'achever, mais cependant encore quelques questions. Quand on parle de mode, on parle de temporalité. Je voudrais reprendre cette très belle définition de Muncha Prada qui souligne que la mode, c'est le langage de l'instant. Êtes-vous d'accord avec ça?
Oui, bah, c'est le langage de plus. Oui, de...
Et en quoi c'est un langage?
Bah, parce que ça représente la société. C'est-à-dire, souvent quand on définit les époques, on les définit par leurs vêtements. Donc, voilà, si on veut dire, les Victoriens ont porté ça, dans les années 60 ont porté ça. Je veux dire, souvent on définit, c'est intéressant, on définit les époques par leurs vêtements. Avant toute chose, donc c'est quand même une chose essentielle qui reflète l'instant. Après, la temporalité de la mode, c'est aussi le passé, le présent, le futur. Donc que les gens travaillent sur le passé, ils travaillent effectivement pour le présent, mais ils pensent au futur. Donc c'est l'instant et à la fois c'est être constamment sur ces trois zones qui sont importante quand on est dans la mode.
Oui.
Donc, la mode est censée anticiper aussi les choses.
C'est un miroir du futur, alors. C'est... Qui s'anticipe.
C'est une préparation au futur.
C'est une préparation au futur. J'avais fait exprès de mettre le mot miroir, parce que c'est...
Non, parce que le miroir, on ne peut pas savoir exactement. Il se passe des trucs dans la mode qui vont peut-être... D'abord, moi, ce qui m'intéresse dans la temporalité de la mode, c'est très pragmatique et c'est quelque chose de professionnel, c'est-à-dire que ça va très vite.
Oui.
Donc, et les gens sous-estiment ça, c'est-à-dire nous, dans la mode, on se remet en cause tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Les créateurs doivent créer des collections, des histoires tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, voire 7 ou 10 fois par an, s'ils ont de la couture, de l'homme et tout ça. Donc, les gens ne se rendent pas compte de la rapidité qu'il faut pour prendre des décisions, pour mettre en marche, mettre en place des choses. Donc, tout ça, c'est pourquoi nous, dans la mode, on est plus hystérique, on est plus paranoïaque, pourquoi on est plus glamour. C'est que tout est accéléré, parce que on doit aller vite, les sentiments sont exacerbés. Donc moi, la temporalité de la mode, pour moi, elle est très pragmatique. C'est cette rapidité avec laquelle on doit prendre des décisions, avec laquelle on doit avancer, et avec laquelle les gens doivent créer, d'où leur insécurité aussi. Parce qu'on leur demande d'être les mêmes tout en se renouvelant, de vendre tout en faisant rêver, et tout ça dans un temps ultra court de création. Quand vous faites un film, vous prenez, vous allez écrire le scénario, je vais me retirer, je vais écrire le scénario à la campagne. C'est des clichés ce que j'ai raconté. Donc on lit souvent, puis après vous allez trouver les financements du film, puis vous allez faire le casting, puis après vous allez le tourner en 3 mois ou 6 mois, puis après il y aura le montage, puis après il y aura la sortie, la promotion. Ça va occuper 5 ans de votre vie.
C'est ça, oui.
Sauf Woody Allen qui sort des films tous les ans, enfin à l'époque. Nous c'est tout le temps, c'est-à-dire moi là, je suis rentré. Je suis déjà en train de préparer septembre, voire janvier de l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'avais bien aimé la pandémie, quelque part. J'ai pas aimé la pandémie parce que c'était triste et bizarre. Mais ce que j'ai aimé dans la pandémie, c'était que du coup, il n'y avait plus de planification. Et mon travail m'a tellement planifié que j'ai aimé prendre toutes ces décisions. On prenait des décisions à la semaine. Est-ce qu'on pourra faire cet événement? Bon, on ne sait pas. Il faut attendre ce que va dire le gouvernement. On ne sait pas si c'est dangereux. On ne sait pas si on fait un événement, on aura un bad buzz. On ne sait pas.
Enfin, c'est sûr.
Donc, on prenait des décisions et j'ai adoré prendre ces décisions. Pour moi, c'était tellement frais de se décider au dernier moment de faire un défilé. On se disait, dans 15 jours, on va faire un défilé. Et en faisant attention à tout ce qu'il fallait, et en repensant son truc, les gens étaient séparés d'un mètre, du coup ça repensait l'espace des défilés, ça a repensé la façon de les filmer, ça a repensé les listes des invités. J'ai aimé cette façon beaucoup plus instinctive du coup et rapide de travailler plutôt que de la planification.
Oui, mais alors dans la mode qui est dans l'instant, arrivez-vous à vivre le moment présent? Si la rapidité, vous êtes dans la rapidité et à la fois.
Après, est-ce que j'ai fond de le moment présent? Vivre le moment présent, c'est quoi? C'est kiffer le moment présent?
Oui, goûter ce moment, comme dit Horace, cueille le jour, carpe diem.
Oui, bien jour. Sûr. Bah, je pense que aussi ça, par exemple, la pandémie, ce qui est arrivé au monde, je pense que ça a redéfini un peu ça. Je pense que les gens ont vu que la vie était aussi plus fragile, que tout, des choses qu'on pensait impossibles, c'est-à-dire que le monde s'arrête du jour au lendemain, des villes vides, nettoyer ses légumes, nettoyer ses chaussures, je dis n'importe quoi, la peur d'attraper cette maladie, la peur que vos proches l'attrapent, tout ça a permis peut-être aux gens de voir la valeur de la vie, et je trouve qu'ils sont peut-être un peu plus, peut-être, je sais pas. Après, nous, dans notre univers, c'est tellement revenu plein de pot que je suis pas sûr qu'on kiffe.
Êtes-vous heureux, Lucien Pagès?
Alors, ça, c'est avec une question. Moi, je pars du principe qu'on n'est jamais heureux, mais on essaye d'être le plus heureux possible.
D'accord. C'est une bonne conclusion. Lucien Pagès, à toutes les étudiantes, les étudiants qui nous regardent, quel message d'espérance aujourd'hui pouvez-vous leur offrir, tous ces étudiants?
Moi, je veux toujours être un exemple dans le sens que voilà, j'ai eu envie de faire de la mode, j'ai venu d'un village dans les Cévennes et je l'ai fait. Et voilà, donc je veux juste être cet exemple-là, que les choses sont possibles, que quand on a des rêves, on peut les réussir, les accomplir. Voilà, je veux que les gens n'aient pas de limites en fait à leurs rêves déjà. Après, ils auront peut-être des limites dans leur exécution.
Oui, ce qui est différent.
Mais en tout cas, qu'ils ne s'empêchent pas de rêver et de mettre en place tout pour arriver à ce qu'ils veulent. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être prédestiné à ne pas. Et de se mettre des limites, ou que vos proches ou les gens vous mettent des limites, ou vous disent tu ne vas pas y arriver. Voilà, on est un être humain, on arrive à regarder les gens, les sportifs de haut niveau, ils arrivent à se dépasser. Je pense qu'on peut se dépasser dans toutes les. On a cette capacité en nous de se dépasser. Et voilà, et chacun dans son domaine, avec sa propre ambition. Tout le monde n'a pas besoin d'être un champion, mais tout le monde peut en tout cas aller vers le mieux, s'épanouir, grandir.
C'est ça.
C'est ça qui est important. On est quand même doté de cette faculté intellectuelle. On a un cerveau. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient des animaux. Et il faut l'utiliser pour faire quelque chose de bien.
C'est ça.
Pour soi-même et pour les autres.
Tout à fait. Lucien Pagès, un très grand merci de m'avoir reçu.
Merci.
Merci pour merci pour la profondeur de vos réponses. Et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, vous caractérise le plus, de Patrick Louis-Richard, qui souligne que la communication est le ciment de toute relation saine et durable. C'est à travers elle que la vie prend son sens. Merci Lucien Pagès de nous avoir donné sens, redonné sens pour certains à la vie, par la profondeur de votre réflexion.
Merci,
et surtout, merci pour votre humanité.
Merci beaucoup.
Raymond, merci. Et bon courage, bonne continuation.
Merci à vous aussi.